l'atelier avec l'artiste Romina De Novellis. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. Rendez-vous pour ce nouvel épisode avec Romina De Novellis, artiste, performeuse et anthropologue qui a créé au cœur des Pouilles en Italie, dans le petit village historique de Galatina, une résidence d'artistes pas comme les autres, qui donne lieu chaque année à un symposium culturel où artistes, historiens, philosophes, experts et anthropologues se retrouvent pour échanger lors de tables rondes où la parole est totalement libre. Conçu comme un outil performatif à part entière, ce rendez-vous artistique appelé Domus, créé en 2018 par Romina De Novellis, a déjà abordé lors des éditions précédentes plusieurs grandes thématiques contemporaines telles que la question des dialogues et des migrations autour de la Méditerranée, la question du genre reliée à celle du phénomène de tarentisme et de la condition féminine spécifique au territoire des Pouilles, ou encore la mort des oliviers dans ce sud italien. Cette année, l'événement a lieu du 18 au 20 juillet et traitera de l'or rouge, à savoir la tomate, la question de sa production et de sa diffusion dans ce même territoire depuis le déclin des oliviers. Intitulé « Viva la papa col pomodoro », du nom d'une chanson créée en 1965 par la réalisatrice et actrice italienne Lina Wertmüller en collaboration avec le compositeur Nino Rota, puis interprétée par la chanteuse Rita Pavone pour accompagner une émission de télévision, la tomate sera donc déclinée dans tous ses aspects, de la soupe populaire d'un pays rural affamé au motif du pop art jusqu'aux questions économico-politiques qu'elle engendre aujourd'hui dans notre société. Dans cette conversation, Romina De Novellis nous livre l'importance de ces rencontres artistiques qu'elle organise chaque année et revient sur les notions de féminisme et d'art de la performance qui soulèvent aussi une histoire beaucoup plus intime et familiale autour de la nécessaire expression du corps dans l'espace public, en revenant aussi sur sa propre histoire personnelle. Bonjour Romina De Novellis, on est dans ton atelier ici au cœur de Paris, donc on est boulevard de Strasbourg, mais c'est aussi le siège de ton association qui s'appelle Senza, et on va en parler aujourd'hui parce que c'est une association qui fait plein de projets entre la France et l'Italie, et notamment un projet qui s'appelle Domus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Bonjour, oui, merci Julie. Alors, l'atelier Senza, donc c'est... Essence à comme essence, voilà. C'est une association que j'ai fondée il y a 10 ans, dont son siège en effet c'est au 21 boulevard de Strasbourg, et on a d'abord commencé à travailler entre des chercheurs, des artistes et des thérapeutes sur la question du care, le care entendu comme approche autour du corps, parce que je suis performeuse, artiste performeuse, donc la question du corps est centrale dans mon questionnement et dans ma démarche, mais aussi le care dans l'espace environnemental, donc les questions écoféministes reliées autour du corps en fait, voilà. Successivement, j'avais besoin de géolocaliser cette même question et de me rapporter aussi à un territoire qui m'appartient, mais qu'en même temps il a été exploité et complètement envahi à la fois par le tourisme sauvage, mais aussi par les questions géopolitiques qui s'imposent au sud de l'Italie, et donc les Pouilles, d'où je ne suis pas du tout originaire. Je suis,
tu es originaire
de... Voilà, je suis originaire de Naples, mais j'ai grandi à Rome toute ma vie, mais de famille napolitaine des deux côtés, mère et père. Et les Pouilles, j'ai reconnu les Pouilles comme une autre région qui m'appartient, parce que à Galatina, donc la ville où il y a la maison Domus, que depuis donc 2019, Atelier Senza a développé tout un programme de résidence d'artistes et chercheuses, notamment des femmes, mais pas que, de la Méditerranée, et aussi des différents suds de façon globale. L'idée m'est venue parce que dans ce centre historique petit, il y avait un phénomène assez extraordinaire que j'ai voulu relier aux notions de performance et de performativité. C'est-à-dire toutes les femmes, un peu comme chez Charcot et le bal de folle, en fait. Des femmes qui vivaient des conditions extrêmes à l'intérieur de leur famille. Donc, des violences, voilà, un empoisonnement général du genre féminin dans un contexte familial rural, pauvre et dans un sud extrême. Ces femmes-là exprimaient leur souffrance, leur douleur, pas l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas l'institution psychiatrique là-bas installée, mais sur la place de Galatina, où une fois par an, elles venaient, soi-disant, mordu par une tarentule, qui bien évidemment n'existe pas en Italie, on n'est pas dans les pays tropicaux, il n'y a pas de tarentule si dangereuse, d'araignée si dangereuse. Et du coup, elle venait sur cette place parce qu'il y a une chapelle dédiée à Saint-Paul qui protège des piqûres des bêtes glissantes au sol, dont les araignées, pour demander la grâce à Saint-Paul. Une grâce, une demande de pardon par l'air, j'ai envie de dire aujourd'hui, être rébellion, être des femmes qui se rebellaient, révoltaient au pouvoir patriarcal, au pouvoir religieux de l'Église. Voilà, les valeurs étaient associées à la morale aussi. Donc dans un contexte rural du sud et catholique, bien évidemment, elles étaient stigmatisées par plusieurs points de vue absolument patriarcaux et machistes et misogynes. Et de bouche à oreille, les plus courageuses avaient trouvé cette manière d'exorciser à la fois leur stigmate, à la fois leur douleur intime profonde de ce qu'elles souffraient sur cette place où elles arrivaient à l'aube. Et c'était une sorte de festival de performance, j'ai envie vraiment de le dire de manière si pop. Elles s'exprimaient dans toute leur douleur, des crises convulsives, on aurait appelé à travers la psychiatrie d'autrefois, Charcot, etc.
Donc ça, c'était plutôt au 19e siècle.
C'était depuis le Moyen-Âge. Et ça vient des bacchanales déjà, ces rituels-là. Du coup, l'anthropologie a introduit ça à travers la notion de rituel et la guérison à travers la musique et l'exercice.
Une sorte de catharsis.
Voilà, exactement, de la catharsis, d'exorciser la douleur à travers donc, la ritualisation publique de cette douleur. Donc, l'anthropologie l'a encadré là. Autrefois, pour les médecins, c'était des folles furieuses, en fait.
Voilà, donc ça, c'était évidemment avant les notions
de genre
de
et tout
psychiatrie
ça.
Aussi. Qui
si.
Va, voilà, c'est ça.
Bien évidemment, même l'anthropologie la plus récente qui a étudié ça, le plus tôt qu'on a des études réelles sur ce phénomène, on parle de 1959. Donc, on est dans l'après-guerre. Bien évidemment, c'est un anthropologue homme qui est allé observer ces femmes, quoique il a été Ernesto De Martino, absolument génial parce qu'il est parti pas tout seul, mais en équipe pluridisciplinaire. Donc il y avait aussi des artistes, des anthropologues, des ethnomusicologues, il y avait, voilà. Donc il n'est pas allé là de façon, voilà, je suis l'homme, je vais observer des femmes. Il s'est questionné de manière globale, donc déjà ça, c'est intéressant de découvrir ça. En revanche, le phénomène en soi, il a été englouti par les folklores, il a été donc supprimé de l'histoire des femmes. Oh, personne ne connaît ce phénomène, à part des petits experts, voilà. Et quand on a en tête ça, c'est parce qu'on a passé un bel été là-bas, donc on a pollué cette région qui est envahie par un tourisme sauvage pas du tout organisé. Dans la même région, on souffre du dessèchement précoce des oliviers, donc la moitié des pouilles, les oliviers, presque la totalité, sont desséchés ou morts, d'une sorte de pandémie bactérienne qui s'appelle Xylella fastidiosa et qui a donc tué tous les oliviers, qui était quand même le symbole un peu notre forêt du sud. Et qui souffre, comme la Sicile aussi, de l'arrivée d'autres peuples, les peuples migrants. et que souvent sont intégrées dans un contexte du sud à travers la récolte des tomates, la récolte voilà, des produits de la terre, et c'est du développement vraiment esclavagiste en fait, dans des conditions pourries, sans être payé, et souvent les corps disparaissent sans même pas qu'on en sache voilà, les origines, les noms, les prénoms, etc. Donc il y a tout un drame derrière l'organisation de l'agroalimentaire aussi dans cette région, à la fois par voilà, la bactérie qui n'a pas été soignée comme il fallait, à la fois par l'arrivée d'autres populations voilà, qu'on exploite de manière complètement mafieuse et en civil, et à la fois par des notions de questions de genre qui restent tabous, qui restent absolument dans une nuance patriarcale et machiste.
C'est un conservatisme complet, très ancré là encore.
D'où l'effet que ce phénomène a disparu de la mémoire des gens, et que encore, si on interpelle les habitants, même de ma génération, j'ai 42 ans, ils te disent « Ah oui, c'était des folles, elles étaient piquées. »
Oui, voilà. C'est ce qu'on a appelé, je crois, le mal de la tarentule. Où il y a
voilà,
quand même
le tarentisme, ça s'appelle.
C'est ça, le
voilà.
Exactement.
Et moi, je me dis toujours, comme je suis d'origine napolitaine, donc une femme du Sud, etc., et puis féministe et très engagée à travers mon corps, mon travail d'artiste dans ces problématiques-là, je me dis que ça aurait été honteux de ma part de ne pas contribuer à réinscrire en fait dans cette histoire, d'abord dans une véritable histoire et pas dans les folklores locales, et ensuite de ne pas repenser ces phénomènes pas comme des folles furieuses piquées par une bête,
de l'inscrire aussi dans une actualité, une contemporanéité
qui existe toujours
aujourd'hui. Exactement, oui.
Et que d'ailleurs lorsque l'Italie du Sud devient territoire d'accueil de personnes migrantes, dont des femmes, on voit si on veut parler en termes anthropologiques, des rituels similaires aussi bien au nord d'Afrique que dans le reste de l'Afrique, ce qu'on appelle les rituels de guérison. Donc, est-ce que la notion de performativité, comme on l'a théorisée en Occident, est un processus de care en fait?
Donc,
voilà, et c'est ça qui m'intéresse.
Oui, mais il y a aussi les rites initiatiques, enfin, dans certaines ethnies ou communautés.
Voilà, et par contre, je suis très sensible au fait, parce que, encore une fois, je parle en étant une femme occidentale, tout en étant du Sud, d'un Sud catholique, mais je suis une femme occidentale. Et donc, j'ai envie de re-questionner la notion de rituel, que pour moi est toujours liée à une question, en tout cas, qui cache derrière elle une mentalité patriarcale, voilà, même par rapport à l'importance du soignant, du geste soignant, sur certaines pratiques. Donc j'ai envie aussi de déritualiser cette pratique, et c'est pourquoi la notion de performance me permet d'accéder à la limite à l'art brut, ou des discours, à des langages qui appartiennent plus à la création, donc à l'esprit libre de pouvoir s'exprimer.
Bien sûr, oui.
Voilà, parce que le rituel l'encadre quand même, alors que imaginez ça dans un contexte plus de libre arbitre en fait, de se dire je ose faire ça, et j'ai choisi mon corps pour le faire, sans avoir la conscience d'être performeuse, comme moi.
Mais toi, tu étais quand même performeuse avant d'avoir cette idée de constitution d'association, du coup, tu as...
Oui.
Comment t'en es venue à la performance? Parce que la performance, c'est un art quand même assez singulier, on n'y va pas ça. Enfin, je veux dire, plutôt qu'autre chose, je ne sais pas. Donc, tu me disais que tu étais danseuse d'opéra avant.
Oui.
Est-ce qu'il y a une continuité
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux grands traumatismes dans ma vie qui ont arrêté, j'ai pas envie de dire arrêté, mais qui ont transformé mes besoins, mes exigences et donc mes recherches. D'une part, la notion de genre et la question donc aussi écoféministe qui est au cœur de mon travail, c'est parce que je suis enfant victime de violences domestiques.
Okay.
cette expérience traumatique m'a immédiatement amené d'abord vers un travail psychanalytique profond, mais aussi d'encadrer cette violence subie dans un contexte culturel précis. C'est-à-dire que les violences subies, pour moi, étaient des violences comme d'autres, mais il y avait la caractéristique d'appartenir à un sud-italien, par exemple.
Mm-hmm. Donc ça, tu l'as senti,
oui.
C'était aussi
donc une mentalité catholique.
Voilà, une mentalité, une composante de cette
si.
Mentalité.
Oui, pour moi, c'était important d'encadrer ça dans un cadre culturel aussi. Ça ne veut pas dire que la violence est plus ou moins grave ou profonde, ce n'est pas une question de valeur. C'est une question d'expliquer les relations humaines qui se créent autour d'une violence. Le silence des autres qui sont autour, le silence de ta mère qui n'ose pas dire des choses au père. Et ça, ça fait partie aussi d'un bagage culturel.
C'est une sorte de déterminisme social aussi. Hein.
Parfois,
comme
oui.
Comme disait Zola à son époque, mais c'est vrai.
Exactement. Donc, il y a tout un contexte aussi qui défend la violence, qui la justifie. Et ce contexte qui justifie la violence, je voulais l'observer du point de vue du contexte dans lequel j'étais. Donc voilà, et le tarantisme pour moi est aussi dans ce contexte, existe parce qu'il est dans ce contexte-là que c'était le même que le mien.
C'est-à-dire que tu t'es dit qu'effectivement, si tu avais été une femme quelques décennies plus tôt, tu aurais pu être cette
femme-là. Probablement, oui.
Qui va effectivement en place publique essayer d'exorciser ces maux. En fait.
Voilà, et donc pour moi, ma pratique.
Tu t'es identifiée aussi. Ouais.
Exactement, ma pratique de performeuse m'a permis d'évacuer le drame. Évacuer le traumatisme et sans que ce soit de l'art thérapie, chose à laquelle je n'adhère pas.
D'accord.
Par le fait aussi que je ne suis pas thérapeute, mais la notion de cœur m'intrigue, m'interpelle. Voilà,
et comment... ça passe par aussi la libération du corps finalement,
oui,
parce que quand tu
oui.
disais danseuse, c'était déjà un choix.
Oui.
Où il fallait que tu t'exprimes par ton corps.
Oui,
même.
Et alors du coup, c'est ça qui est intéressant, la question de libérer la parole. Pour pouvoir parler comme ça, j'ai dû changer de langue.
C'est ça, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas forcément énoncer verbalement,
non.
Mais tu vas énoncer par ton corps. En fait.
Exactement, j'ai dû changer de langage. Et ce changement de langage est arrivé suite à un accident que j'ai eu il y a 20 ans, 2004, où j'étais engloutie par l'asphalte à Rome pendant que j'étais en scooter. Un cratère, un trou s'est ouvert sur mon scooter et je suis tombée dedans. C'est typique de Rome. 15 ans de procès, j'ai perdu. Hein. Si, parce que c'est tout un système mafieux. Et cette expérience-là a bouleversé ma carrière de danseuse que j'étais auparavant.
Tu as été blessée gravement ?
Si, oui. Blessée gravement. Et du coup, voilà, 2 ans après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, je me suis retrouvée à reproduire mon travail plutôt dans l'art contemporain et dans la performance. Voilà, donc cette question en plus d'un complot derrière l'État, d'un besoin de cacher l'évidence des failles institutionnelles et du pouvoir, ça aussi c'est très mon pays, la mafia,
oui,
c'est ça,
sûr.
C'est une corruption légalisée, autorisée, et ça aussi j'avais besoin d'inquiéter en fait,
c'est
de corrompu.
Exactement,
voilà.
Donc il y a aussi effectivement toi, ton propre geste d'une nécessité intérieure d'exprimer quelque chose, mais aussi c'est politique.
Oui, complètement.
Puis c'est aussi la performance, c'est quand même dans l'espace public, donc c'est pas
oui.
anodin
oui.
que ce soit aussi l'espace public.
Oui.
Qui t'a blessé en fait
avec Exactement.
Ce système mafieux, donc symboliquement,
oui.
c'est aussi de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans l'espace public.
Ouais. Exactement, et donc voilà, tu vois, le besoin après de changer d'abord de pays, de quitter ce pays que j'aime profondément,
que tu adores, oui, bien sûr.
Mais qui m'a beaucoup blessée à plein de niveaux et que. Profondément au niveau intime d'enfant et puis au niveau professionnel, d'une professionnelle de la danse. Je ne me suis jamais sentie victime. Mon activisme, même politique, je l'ai fait à travers des projets qui, à la fois la production artistique, à la fois Domus, Atelier Senza, qui me permettent de positionner ma pensée et mon positionnement en tant que femme artiste par rapport à ce qui m'est arrivé. Je trouve ça beaucoup plus constructif où le message peut arriver de manière encore plus forte, je pense, voilà, que si je me positionnais en tant que quelqu'un qui avait quelque chose de moins aujourd'hui, en fait.
Oui, bien sûr. Je pense que tu as raison, il faut être positif. De toute façon, il faut être dans l'action.
Oui, dans la réaction, surtout.
Et dans la réaction. Oui, oui, donc comment tu vois cette performance qui, effectivement, voilà, qui doit être quand même positive, hein, même dans ce féminisme qui se bat, en fait.
D'abord, je suis devenue féministe. Je ne l'étais pas. J'ai grandi avec un père violent qui a abusé à tous les niveaux. Donc, comment tu veux être féministe quand tu grandis dans une culture où l'abus, la violence, l'abus, voilà, patriarcal est légitime? Donc, c'est un processus de cœur qui t'amène qui m'a amené au féminisme. C'est de m'éloigner de ma mère qui ne représentait pas du tout pour moi ce féminisme, parce qu'elle a complètement subi et elle est restée dans un rôle de victime, sans défendre sa fille, parce qu'elle subissait. Quand j'ai compris que c'était ça son problème, j'ai jamais accepté mon rôle de victime à moi.
À quel moment tu l'as compris, en fait? Avec quel âge?
Par chance, assez rapidement, j'étais révoltée à cette mère victime. Je ne me reconnaissais pas. Je la compatis, j'ai de la peine pour elle, mais je ne voulais pas être une femme compatie ou regardée par peine, par pitié.
Tu ne voulais pas être comme elle, finalement.
Non, je voulais être une femme qui se guérissait et qui sortait de cet état de victimisation. Et pour ce faire, j'ai assumé mon corps, j'ai assumé mon aspect physique et j'ai assumé une performance qui est dure, parce que mes performances peuvent durer plusieurs jours, plusieurs heures, je bois pas, je mange pas.
Donne un exemple, par exemple, voilà, d'une performance un peu extrême.
Ah, toutes. Ouais. Il y en a pas, parce que.
Pour c'est... qu'on s'imagine là, juste.
Par exemple, voilà, mes dernières productions à Paris, au Jeu de Paume, au Jardin des Tuileries avec le Louvre et Paris Plus l'année dernière, c'était toujours des performances où j'ai resté dans le même geste répété pendant des heures et des heures. Alors, au Jeu de Paume, j'avais réalisé 4 tableaux en dialogue avec l'Arte Povera. Et c'était 4 œuvres masculines faites par des hommes que j'avais réinterprétées en tant que femme, déjà dans un discours hyper macho que c'est l'Arte Povera. Et j'ai, par exemple, la première, je suis restée allongée dans une cage d'allaitement des cochons. Donc les mamans cochons restent allongées plusieurs semaines sur un seul côté et les petits cochons, plus à la prise d'antibiotiques, peuvent aller téter non-stop des seins de leurs mamans qui sont à la fin détruites parce que tous les cochons peuvent téter de toutes les mamans. Donc, je suis repartie des chevaux, des 12 chevaux de Cunalis et j'ai parlé des cochons et de la fête aux cochons, de comment il y a cette vision aussi du corps et de la bête, et carrément festif aussi, mais en fait c'est une humiliation et un processus de mort et de tuerie. Donc voilà, je suis restée allongée pendant 9 heures dans cette cage sur des cotillons, mais dans la même position, on dirait une Vénus, mais en fait c'était le côté comme le cochon qui allaite, en fait, donc sur un côté, et j'ai sifflé une trompette.
Oui, mais des petits sifflets qui se déploient là en papier là.
Voilà, pendant 9 heures j'ai sifflé ça sans interruption. Et à la fin, c'était un animal en cage, en fait, qui souffrait, qui mourait petit à petit, parce que la trompette, en plus, elle s'est trompée d'eau, de salive, donc elle était mouillée, elle jouait de plus en plus mal. Bref, et j'étais toujours, par contre, fière dans cette posture, complètement. Pour moi, c'était très douloureux au niveau du dos, au niveau de mon corps, ça faisait mal quand même, mais l'image que je donnais, c'était quand même d'une situation où j'étais fière jusqu'au bout du souffle, en fait. Jusqu'à la fin, j'ai resté fière de moi et dans une vision de moi jamais mortifère. Et pour moi, aujourd'hui, en tant que féministe, c'est important pour moi de dénoncer la violence, de la montrer, ça c'est carrément très violent ce que je décris, de rester comme ça.
Bien sûr.
Mais aussi d'assumer que je réalise ça avec le corps que j'ai, avec l'envie que j'ai de montrer la femme que je représente, tellement italienne, tellement, voilà, tellement classique aussi, qu'est-ce que c'est ennuyant, mon corps, mon...
Mais oui. Non, je précise que Romina est très belle.
Non. Donc, non, mais je veux dire que c'est tellement un cliché. Et ben, je l'assume. Je suis un cliché, je l'assume jusqu'au bout et je le valorise même.
Et puis, tu veux être féminine aussi.
Oui, la notion de féminine,
voilà,
je ne vais pas...
Qu'est-ce que c'est que la notion de féminité ? Parce qu'on peut être féministe comme ça, militante comme toi, et aussi revendiquer d'être finalement dans ce corps de femme.
Je préfère à la notion de féminin, je préfère à la notion de genre, en fait. C'est la notion de genre, c'est-à-dire que la question de féminité, elle peut être aussi associée à un homme, un queer. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux me sentir libre dans mon corps de le maquiller, de l'épiler ou pas, ou de me sentir dans ce qui me fait du bien et pas voilà, bien évidemment tu me vois, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai pas
besoin.
Non, mais d'ailleurs j'en ferai pas parce que justement pour moi le temps qui passe sur mon corps est magnifique à le voir et j'aime bien quand mon corps se transforme, il devient imparfait. Je trouve ça miraculeux, en fait. Cette imperfection, elle est miraculeuse pour moi. Donc, le choix que tu fais extrémise tellement ton cliché que, pour le coup, devient ta norme à toi. Et donc, tu es légitime dans tes choix. J'aime pas m'associer à un courant philosophique, politique, activiste à travers aussi une esthétique dictée. Ça, non, je préfère que ce qui dicte mon esthétique, c'est celle que je suis et donc qui s'impose à l'œil de n'importe qui regarde ça. Donc, parce que c'est clair, les remarques que j'ai reçues, notamment quand j'étais plus jeune et que j'utilisais mon corps aussi nu, par exemple, c'était que c'était facile de m'exposer comme ça parce que je suis jolie. Mais les gens qui disaient ça ne savaient pas que j'étais enfin violée, battue et que j'ai été handicapée. Ils ne connaissent pas que cette beauté qu'ils regardaient arrivait à s'exprimer librement après énormément de processus d'émancipation d'un stigmate. Aucune femme qui subit des violences n'est plus jamais à l'aise dans sa sexualité, dans son corps, dans son esthétique. Voilà, pour ce que j'ai vécu, j'aurais pu avoir plein de troubles, des troubles de l'alimentation, des troubles, voilà, plein de dogmes autour du corps, des troubles sexuels.
Bien sûr.
Voilà, et vivre mal à tous les niveaux l'expérience du corps. J'ai pas voulu ça. Et j'assume ce care que j'ai pratiqué sur moi-même. Et donc, je suis fière et je trouve imbécile voilà, qui se limite à faire un commentaire sur seulement la partie esthétique.
Alors, tu t'inscris aussi, tu me disais quand même, là, dans cette lignée un peu de Marina Abramović, etc. Ça, c'est des personnalités qui te marque, enfin, qui t'inspire aussi.
Bien sûr, bien sûr. Après, j'avoue, j'apprécie et je me sens beaucoup plus en correspondance, avec Marina Abramović des premières années de production, quand elle était avec Ulay. Voilà, je trouve cette partie-là de sa production plus stimulante, bien évidemment. Après, je suis très sensible à d'autres artistes contemporaine aussi de la performance, mais voilà, venant d'origine plus méditerranéenne ou d'autres sud. C'est vrai que le langage de la performance, comme je le pratique et comme il s'inscrit dans cette esthétique du body art, presque on pourrait dire, non, si on était dans les années 60-70, c'est un langage que je vois, en tout cas d'après mon expérience, plus dans le sud du monde, des femmes.
Ah oui.
Oui, cette voilà, cette incarnation de la souffrance à travers et de la dénonciation de cette souffrance à travers le corps. Donc, pas mal d'artistes latino-américaines, nord-africaines, maghrébines. Voilà, je trouve qu'il y a plus de correspondance avec mon travail. C'est quand même un travail du sud, oui. Après, c'est un sud occidental, donc il est moins... le sud d'Italie, le sud de l'Europe, il est moins observé que d'autres suds. Il y a moins le phénomène, du coup, d'un regard colonisant sur ces suds. Donc on est un peu plus libre de oui. voilà c'est mais parce que on participe au regard colonisant aussi vu qu'on est occidentaux mais c'est vrai que comme je suis une femme de l'Italie du Sud je considère que ma relation aussi au corps n'est pas si éloignée comme m'est arrivé de travailler en Égypte, au Maroc, de l'impulsion que d'autres femmes ont dans ces pays-là à travers la performance, voilà, des problèmes qui viennent d'abord de l'intimité, de l'intime, de l'histoire intime, avant même de se dire je suis artiste en fait. C'est ça qui est intéressant. En Occident, on voit la performance déjà comme un processus et comme une méthodologie de travail, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas forcément venir d'un parcours politique ou familial féroce, en fait. On peut aussi tout simplement choisir un parcours de performance aux Beaux-Arts et se former. Il y a moins de liens avec la biographie, souvent, je ne dis pas toujours, hein, mais... Alors que, voilà, dans la performance de ces artistes auxquels je pense, comme Regina José Galindo, par exemple, Pilar Albarracín, espagnole, et des expériences aussi en tant que pédagogue de la performance que j'ai pu faire dans les pays maghrébins, notamment, les artistes femmes, qui s'inscrivent dans un genre féminin si on le regarde de façon binaire, c'est clair que souvent il y a une histoire derrière liée au père, à la religion, voilà, il y a toujours une biographie qui est plus urgent que le langage, et puis ça devient la performance de manière automatique. Donc oui, Marina Abramović, c'est un exemple d'ailleurs. Elle avait aussi, moi aussi, un père militaire, elle est quand même serbe, donc c'est un pays du sud, un autre concept de sud, mais voilà, serbe, voilà, je vais dire, voilà, moi j'aime beaucoup Pippi Lottiriste, par exemple, que du coup, elle n'est pas du tout du sud, mais je trouve phénoménal aussi le courage, cette ironie, par exemple, ce cynisme que souvent devient tragique, non, dans des langages plus du sud. J'aime bien ce cynisme, voilà, si on voulait vraiment géolocaliser.
Et quand tu parles de Domus, effectivement, donc c'est le prolongement de tout ça. Ce qui est intéressant et ce qui interpelle, c'est que finalement, dans cette création d'associations, puis de résidences, tu vas nous en parler, donc dans les Pouilles, tu abordes aussi des sujets beaucoup plus vastes, finalement, que juste la performance, l'art contemporain et la question du corps dans l'art. C'est-à-dire que tu vas sur des questions, comme tu disais, de politique, économique aussi. Donc pourquoi finalement tu as voulu ouvrir? Parce que c'est très... Du coup, il y a beaucoup de sujets finalement.
Oui, parce que je pense que ce n'est pas par un prisme de spécialiste qu'on résout des problématiques qui s'encastrent l'une dans l'autre à travers un système qui est pervers et toxique à un niveau global, en fait. La chance qu'on a de travailler en partant de l'art, c'est de pouvoir expérimenter et spacier aussi, aller dans l'espace librement à travers la pensée. Pour ce faire, je m'associe à des grands penseurs, des anthropologues, des sociologues, des philosophes. J'y vais pas toute seule, je vais dire...
Tu invites, en fait.
J'invite, voilà. Ça, c'est le programme d'été. L'été, on choisit avec l'équipe, nous sommes trois femmes, du coup, à travailler autour de Domus, Pauline Rossignol et Gioia Perrone, donc une Française et une Italienne. Nous sommes trois et ensemble, nous choisissons la thématique. Et nous choisissons toujours de traiter une problématique locale. Comme, voilà, les oliviers,
Alors les... oui, donc si on reprend un peu les thématiques là depuis
oui,
six
on
ans,
a traité les
près.
Questions méditerranéennes, donc les problèmes géopolitiques avec voilà, l'édition qui s'appelait Dialogue autour de la Méditerranée, donc les questions géopolitiques qui amènent voilà, les problèmes donc, de peuples migrants, la problématique de genre en répartant de la question du phénomène du tarantisme, donc comment la question de genre s'inscrit en Méditerranée. La mort des oliviers, donc les problèmes écologiques à l'intérieur toujours de ce bassin, mais en partant toujours d'une problématique existante sur le territoire. Et cette année, on va traiter l'or rouge, donc la production, l'implantation aussi de camps et la diffusion, la distribution de la tomate. Voilà pourquoi l'or rouge.
Alors, parce que la tomate dans les Pouilles, c'est alors, très important.
Ça l'est devenu, ce okay. ne l'était pas. Avant la tomate, on avait le tabac qui s'est arrêté aussi comme production. Bien évidemment, il y avait l'huile, mais comme on l'a dit, l'huile aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, c'est beaucoup moins produit
à cause de la
pandémie.
Des oliviers, ouais.
Voilà. Et en effet, la tomate a pris une place dans l'économie mondiale, dont l'Italie, avec les États-Unis et la Chine, c'est parmi les trois puissances mondiales de distribution.
Ah oui.
Oui. Des produits dérivés de la tomate, transformés pour
les sauces, tout ça.
Voilà, les réutiliser dans des formats différents. Voilà. Et l'Italie fait partie de ces puissances mondiales par rapport voilà, à la distribution de la matière première.
Et spécifiquement dans les Pouilles, du coup
ben, dans les Pouilles, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des régions qui sont plus ou moins cash au niveau de l'organisation mafieuse qu'il y a derrière, il faut dire ça. Je ne pense pas qu'en Sicile, c'est mieux, en fait, franchement. Mais voilà, en tout cas, dans les Pouilles, c'est un vrai débat okay. aujourd'hui qui commence, on n'est pas encore au niveau, mais qui commence à devenir d'échelle publique. On n'est pas encore à grande échelle. Mais voilà, on commence à entendre qu'en effet, il y a des personnes migrantes qui viennent récolter les tomates dans les Pouilles et qui sont payées 1 euro, 2 euros de l'heure. Voilà, sous des températures quand même du sud. L'année dernière, on a eu des canicules jusqu'à 47 degrés l'été. Oui. Voilà, donc dans des conditions complètement informelles et improvisées. Voilà.
Oui,
donc,
surtout que ça a été, je pense, évidemment accentué avec les phénomènes de migration très intenses de ces dernières années.
Exactement, qu'on avait déjà traité, oui. Voilà, justement, la question des peuples migrants, on l'avait déjà traité à Domus, mais cette année, on touche plutôt à la main-d'œuvre, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui arrivent? Alors, comment on les brutalement dit, on les recycle dans des processus de capitalisme qui crée en fait de la richesse qui en plus est distribuée au niveau mondial avec derrière des pays comme la Chine et les États-Unis. Donc voilà, et l'Italie, le sud d'Italie, alors que c'est beaucoup moins développé que le nord, Milan, Turin, etc., est au cœur de cette puissance mondiale. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir plus de près. Donc on a invité des experts locaux qui connaissent les problématiques de l'intérieur et qui sont des activistes aussi, des chercheurs d'université, de fac, mais avec des approches voilà, assez activistes et de dénonciation de ce qu'ils découvrent en fait. Donc c'est des sociologues, des politologues locaux qui vont venir intervenir cette année.
Donc c'est 3 jours hein, tous les ans. Donc là, cette
c'est
année,
trois
voilà,
jours de
mois de juillet.
Juillet, du 17 voilà. au 21. Et les talks, c'est du 18-20, en fait. 18-19-20.
Voilà, des tables rondes, c'est ça?
Des tables rondes de manière très informelle. Et donc, cette année, on va explorer la symbole de la tomate. Qu'est-ce qu'elle représente, par ailleurs, dans l'art? Voilà, ça a été aussi un symbole du pop art. Voilà, je vais dire, la tomate, on la voit aussi, on la retrouve aussi bien dans la peinture classique que voilà, dans l'art contemporain, l'art moderne, et plus tard aussi, voilà, par les artistes.
Andy Warhol, évidemment.
Oui, Andy Warhol, c'est, voilà, oui, justement. Donc, que la tomate, c'est quand même quelque chose qui a fait réfléchir énormément les artistes aussi. Donc, c'est un symbole fort aussi de l'art. Donc, l'idée, après, c'est que ces journées d'études laissent quand même une trace optimiste. Et pour ce faire, on a besoin de culture, on a besoin de poésie derrière les propos. On ne peut pas juste dénoncer et mortifier la réalité des choses. Il faut aussi se dire qu'ensemble, on pourrait être capable de repenser la problématique, de la repenser dans une perspective résolutive, en fait.
Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expositions qui sont avec un discours assez militant ou de revendications sur des thématiques tout à fait légitimes, très engagées politiquement. Mais c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est peut-être un peu des catalogues comme ça d'artistes qui veulent évidemment dire quelque chose, mais il faut aussi à un moment que ce soit constructif et que ça fasse art aussi. Ça, c'est important pour toi, j'imagine.
Pour moi, c'est la notion de cœur.
Qu'on aille au-delà aussi de juste peut-être le geste, le slogan politique, quoi. Hein.
Oui, pour moi, c'est la notion de cœur, en fait. La notion de cœur peut pas seulement poser des diagnostics, parce que sinon on est dans les spécialismes et dans les technicismes d'autres pratiques qui sont en train de polluer la planète, de tuer les espèces et de dédommager tout le monde, en fait. Donc si on reste dans la notion technique, quoique activiste, pour moi, on oublie la partie fondamentale qui est celle du cœur. Alors, c'est clair, nous, on ne peut pas physiquement aller résoudre le problème, sauf si avec les activistes, on va occuper les terrains où il y a la récolte des tomates, j'en sais rien, faire un geste vraiment extrême.
Donc, chacun est dans son rôle, c'est-à-dire que l'activiste va lui faire ce geste, mais l'artiste va devoir peut-être quand même le transcender pour que
l'artiste, le philosophe,
les penseurs,
exactement, l'idée de donner la parole à des gens aussi qui nous donnent une vision, une perspective. La notion de perspective dans l'art pendant des siècles était primordiale. Sans perspective, on n'aurait pas eu de tableaux, ni de peintures, ni d'architecture. Et d'ailleurs, il paraît que ce soit un Italien qui a fait une première perspective visible dans un tableau. Donc,
il paraît.
Donc, on est dans un pays de perspectives. Pas de résolution, mais de perspectives.
C'est déjà pas mal.
Donc, fidèle à mes origines, j'aime bien me dire que le cœur est une perspective. C'est très difficile d'acter la théorie. C'est très difficile parce que pour acter, passer du processus théorique à l'action, il faut que justement tout un parterre d'experts se reconnaissent dans cette perspective et fassent le maximum pour la réaliser. Donc, c'est des processus lents, long,
bien
et
sûr,
que souvent, comme ils sont coûteux, sont toujours à l'échelle multinationale.
Oui.
C'est pas Domus. Donc on revient au problème.
En tout cas, Domus, c'est
cyclique. On revient au multinational. Non, mais je veux dire par là.
C'est des petites graines, c'est un peu.
C'est une énorme graine par son poids intellectuel. On laisse quand même une trace écrite, orale et artistique de ça. Et surtout, ces journées d'études du mois de juillet donnent l'élan aux résidences qui ont lieu entre septembre et juin durant toute l'année par des artistes et des chercheurs, encore une fois, notamment des femmes et méditerranéennes, mais pas que.
D'accord.
On est ouvert à toutes et à tous. Et que aujourd'hui, Domus fait partie aussi du grand tour des instituts culturels français, donne en fait la possibilité à des artistes, à des chercheurs de venir là-bas et continuer le discours commencé au mois de juillet. Et eux, elles, viennent à Domus durant l'année et pendant un mois, sur la base, à l'issue de ces journées d'études, développent leur projet de recherche.
Donc ça, c'est combien de personnes à peu près?
Nous avons deux artistes en résidence par mois ou des couples, donc entre deux et quatre. Ils ont un studio avec salle de bain privative, cuisine partagée, bureau partagé, différents espaces pour la création à l'extérieur. Et donc, c'est 2 ou 4 personnes, si c'est des couples, voilà, des collectifs ou des couples d'artistes, qui peuvent vivre dans la Domus et travailler à l'intérieur. Et du coup, dans l'idée des perspectives, ils continuent. Cette année, on va solliciter dans les appels d'offres les artistes à travailler sur les questions agroalimentaires. Du coup. Et puis, en juillet, les artistes que durant l'année ont produit, notamment de la vidéo, pour le coup, comme on fait un festival de vidéos parallèlement aux journées d'études, en fait, on projette les vidéos des artistes qui ont produit, qui ont réussi à produire quand même des... Voilà, et donc on montre leur travail dans le cadre du festival du mois de juillet.
Ça crée une communauté.
Oui, complètement.
Et toi, Romina, est-ce que tu prépares une performance pour ces journées?
Ah, non. Alors, pour le coup, tout en restant artiste, alors... voilà, je suis aussi anthropologue, donc j'ai voulu me former en anthropologie avec un doctorat, donc mais je suis pas, je me considère pas une anthropologue au sens strict, donc moi je me positionne dans ce contexte là comme dans un processus performatif. Pour moi, c'est une performance,
c'est déjà une performance.
Je pense qu'aujourd'hui les artistes, s'il y a un travail aussi à faire, en tout cas dans ma démarche, je le vois fortement comme mon travail, c'est mon corps, c'est moi-même, je suis toujours en première ligne, on me voit tout le temps dans les photos, dans les vidéos, c'est moi. C'est aussi de rajouter à ce moi, nous.
D'accord.
Voilà, c'est de me diluer dans un nous. Et pour moi, ce nous, ça fait partie d'un processus d'anthropologue, mais aussi de performeuse, où la performance est au service d'une modalité de penser le travail participatif, en fait. Donc ça devient un outil de travail. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la plus grande réussite, en fait. Quand les gens trouvent le temps de venir pour passer du temps avec les autres, c'est déjà un processus de care et performatif. Voilà.
Merci Romina, on va s'arrêter sur ces belles paroles et puis on va surtout aller découvrir Domus cet été.
Merci.
Avec toi, merci.
Merci.
C'était à l'atelier avec Julie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre podcast, une émission que vous pouvez découvrir sur le site d'Art District Radio, en diffusion et en podcast.